Débat d'idées. De gauche à droite, avec Charles Mongeon et Éric Lantier.
Bonjour Éric.
Bonjour Alain.
Comment ça va Éric ce soir?
Ah ouais, je suis en pleine forme et je me sens d'attaque pour affronter Charles Mongeon, le poids lourd des débatteurs.
Bonjour Charles.
Bonjour Alain.
Comment ça va? Tu te sens fébrile ce
bien.
Soir?
Très en forme aussi ouais. Pour débattre avec mon ami Éric, que je connais depuis longtemps, avec qui je suis très opposé sur plusieurs sujets, mais on sait quand même malgré tout préserver une très belle amitié, Éric et moi.
Ça promet. Avant de débuter le débat, j'aimerais qu'on fasse une courte présentation de chacun. Vas-y, toi Charles.
Oui, moi je me considère comme un citoyen polémiste, à l'image de monsieur, madame, tout le monde. J'ai une expérience en journalisme, je travaille dans les médias actuellement, dans un hebdomadaire, et j'aime beaucoup débattre sur les réseaux sociaux, qu'ils soient de gauche ou de droite, j'aime débattre. Donner mon opinion, évidemment recevoir des coups parce que ça se fait avec avec plusieurs taloches sur les réseaux sociaux, mais c'est la beauté de la chose quand même. Si on veut arriver à quelque chose, des fois faut échanger des idées.
Et toi, Éric?
Voilà. Mais moi aussi, j'aime débattre sur les réseaux sociaux. J'ai mon blog, ericlantier.net, et aussi je vais commenter l'actualité sur différentes plateformes radiophoniques. Et donc, je suis bien heureux d'être ici.
Donc, un premier thème ce soir. Charles, tu nous as présenté ce thème, l'utilisation excessive des armes à feu par les policiers américains.
Oui, exactement. Plusieurs médias québécois, hier, ont fait écho à une grande enquête du Washington Post, publié dimanche, donc, et mené à la grandeur des États-Unis depuis le début de l'année. Cette enquête-là fait ressortir qu'il y a, au moment où on se parle, au moins 350 personnes qui ont été tuées par des policiers aux États-Unis en 2015. On parle de 385 personnes tuées en 5 mois. Ça m'apparaît un chiffre énorme.
Éric?
Ben, moi aussi, je trouve que c'est un chiffre énorme, et ma crainte, ce serait qu'on légifère et qu'on passe des lois qui interdiraient, par exemple, certains policiers de porter une arme à feu. Ça, c'est ma crainte, parce que il y a aussi l'envers de la médaille. Il y a énormément de policiers qui sont tués par des armes à feu. 92% des homicides au Canada ont été commis à l'endroit des policiers par une arme à feu. Donc, il faut trouver une autre solution, et je crois que moi, la solution, c'est le port d'une caméra sur la casquette, par exemple, du policier.
Qu'est-ce que t'en penses, Charles?
Quant au port d'une caméra, je pense que l'idée est bonne. Elle a été même approuvée par plusieurs corps policiers ici au Québec dernièrement. Mais ça va être très, très difficile à appliquer parce qu'évidemment, on va enregistrer 24 heures sur 24. Ça va prendre des services d'archives énormes. Il va falloir conserver tout ça pendant des mois et peut-être des années, parce que parfois les enquêtes durent longtemps, les procès durent longtemps. Alors, l'idée d'une caméra, je l'exclus d'emblée pour moi.
Éric?
Oui, pardon. Et donc, moi, je crois que la caméra, c'est quand même, à court terme, le moyen le plus efficace, parce qu'il y a énormément de policiers qui sont en danger. Et ce que Statistique Canada nous dit, c'est que la plupart des policiers n'ont pas pu se défendre avant d'être tués. Seulement le tiers environ ont pu sortir et braquer leur arme ou tirer avec celle-ci. Donc, il y a quand même une menace pour les policiers, et les policiers sont justement là pour veiller à nous protéger. Il faut s'assurer à ce que nos protecteurs soient bien équipés, mais malheureusement, il y a des bévues, il y a des écarts, et c'est ça qu'il faut apprendre à gérer.
Charles?
Oui, je suis d'accord avec la protection de nos protecteurs. Toutefois, l'article donc l'enquête du Washington Post parle de gens qui étaient 385 personnes tuées, parle de gens qui étaient majoritairement armés. Il y avait 221 victimes sur les 385 qui possédaient une arme à feu au moment d'intervention. C'est ce qui me fait sursauter. Moi, on parle de 60% des gens donc qui ont été tués, mais qui possédaient une arme à feu. Je me pose la question, est-ce que vraiment tout ce monde-là avait besoin de posséder une arme? et pourquoi certaines personnes vont répondre à la porte avec une arme dans le placard, au cas où quelqu'un d'un peu menaçant se présenterait.
Éric?
Ben, je crois que là-dessus, on doit l'État doit veiller à ce que la circulation des armes à feu soit limitée. Évidemment, aux États-Unis, la liberté, elle est trop excessive. Ça, c'est clair. Ici, au Canada, quand même, on a une bonne régulation, de bonnes lois. Et à ce moment-là, ici, c'est pas le même contexte. Et on voit rarement des gens avec une arme à feu nous répondre à la porte.
Qu'est-ce que t'en penses, Charles?
Non, c'est certain qu'on se dit toujours « Ah, ça se passe aux États-Unis, c'est pas comme ça au Canada, il y a moins d'armes en circulation, beaucoup moins de malades qui tirent partout. » Mais il faut quand même rester vigilant, à plus forte raison, parce que notre gouvernement canadien épouse en tout point les politiques républicaines américaines. À savoir, là-bas, aux États-Unis, j'ai le droit de me défendre avec un gun. Et je rappelle aussi aux auditeurs les propos de notre premier ministre, Stephen Harper, en avril dernier, qui mentionnait bon que sa femme habitait en région et que une arme, dans ce temps-là, ça pouvait être pratique si le poste de police était trop éloigné pour intervenir rapidement. Donc, sous-entendu, on peut se protéger quand même avec une arme quand on habite en région le moindrement éloigné. Ce sont des propos qui ont créé scandale. Évidemment, apparemment, le premier ministre parlait uniquement d'une situation passée, il y a une vingtaine d'années, vécue par sa femme.
Ouais, ben, je crois que ça, c'est des cas isolés. Et évidemment, si, par exemple, un fermier a une arme de chasse et puis on tente de défoncer sa maison, ça va être normal que le fermier qui sait que les policiers n'auront pas le temps de se rendre va l'utiliser. Maintenant, ça pourrait être vrai avec n'importe qui est à son chalet ou qui se sent menacé, qui va utiliser cette arme-là. De là, on en passe une loi, je crois pas que M. Harper irait jusque-là.
En conclusion, Charles?
Je souhaite qu'on pose les bonnes questions à notre gouvernement fédéral parce que je rappelle actuellement qu'il y a un lobby très actif au Canada qui s'appelle l'Association canadienne pour les armes à feu. Elle compterait actuellement 75 000 membres. Cette association-là a été claire il y a 2 ans. Aux prochaines élections fédérales, on va aider le parti qui nous facilitera la vie.
Merci,
Charles. On
parle
pas de faciliter la vie des chasseurs, merci, mais Charles, de tous ceux qui veulent posséder des armes à feu.
Éric,
alors,
en conclusion.
Il y a un danger, là.
Éric, oui, en conclusion.
Ben, ce qui est inquiétant, c'est que justement, le FBI rapportait que l'an dernier, en 2014, il y a eu 51 policiers qui ont été tués par une arme à feu. C'est presque le double de l'année précédente. Donc, il y a des éléments préoccupants. Je crois qu'il faut trouver des moyens pour protéger nos protecteurs et aussi, pour être équitable, protéger nos concitoyens. C'est pour ça que je crois qu'à court terme, la caméra semble être la meilleure option.
Merci à vous deux. Donc, merci. On passe au deuxième thème qui a été soumis par Éric Lantier, l'abolition des élections scolaires. Éric.
Oui. Oui, malheureusement, le gouvernement du Parti libéral a mal débuté, disons, sa réforme des commissions scolaires parce que il aurait dû, dans un premier temps, abolir directement les commissions scolaires et garder les directions régionales. Parce que, comment est-ce que le ministère de l'Éducation est composé? C'est qu'il y a 17 régions administratives et dans chaque région, il y a un poste administratif. Et là, malheureusement, ils ont procédé à l'envers. Mais ce que le ministre a dit, c'est qu'il y aura plus d'élections scolaires au Québec. Donc, il y a toute une réforme à ce niveau-là. Et ce qui reste en suspens, ce qui n'a pas été répondu, c'est la question des taxes scolaires. Que va-t-il arriver avec cela? Et ça va être important de se poser les bonnes questions parce que c'est certain que la facture va nous être refilée sous peu.
Charles?
Ben, on est en effet dans un grand flou avec la disparition annoncée des élections scolaires. Ça pose un peu scandale aussi parce qu'on vient d'élire quand même des commissaires scolaires démocratiquement. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir terminer leur mandat? On n'en sait rien. Le ministre nous laisse dans l'expectative. Alors, il va falloir être vigilant là-dessus aussi parce que les élections scolaires servaient quand même à quelque chose. Ces citoyens-là, élus, nous représentaient dans les commissions scolaires. Les commissions scolaires fournissent aussi de grands services aux écoles. Alors, il y a une espèce de... On sent qu'il y a un ménage qui s'annonce. On ne sait pas de quelle ampleur. Il y a déjà des taxes scolaires qui sont payées. Si on les élimine, ça peut créer un trou de 2 milliards dans le système d'éducation au Québec. Alors, il y a lieu de se poser de grandes questions.
Éric? Oui, ce qu'on a évalué, ce que j'ai pu répertorier, c'est que la plupart des commentateurs s'entendent que si on rapatriait ou si on, au lieu d'avoir une taxe santé, ben on aurait à la fois également une taxe scolaire, ça serait de l'ordre de 300 $ environ par concitoyen qu'on devrait refiler. Maintenant, la pire option et ce qu'on entend de plus en plus, c'est que cette taxe-là puisse être refilée aux villes. Donc, que les villes collectent les citoyens ou qui ajoutent un montant aux taxes municipales. C'est la pire option parce que les villes seraient obligées de s'occuper des bâtiments, s'occuper de tout ce qui est tout ce qui est le parc physique, le parc matériel. Et il y a aucune expertise de la part des municipalités pour comprendre tout l'aménagement scolaire. Alors, je crois que le ministère doit garder sa mainmise sur les écoles, sur les gymnases, sur cette réalité physique, mais que le financement doit demeurer en lien, soit directement par les impôts ou par le ministère de l'Éducation, mais pas passer par les villes.
Mm-hmm. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Le ministre a simplement annoncé la fin des élections scolaires et non pas la fin des commissions scolaires. Alors, mais il y a des pièges qui nous guettent. Il y a notamment le piège un peu tendu par la CAQ, la Coalition Avenir Québec, qui dit en substance que chaque école est la mieux placée pour savoir de ce dont la communauté a besoin. Mm-hmm. Donc, donnons-leur directement l'argent, que ce soit Québec ou Montréal ou les villes qui perçoivent les taxes, donnons aux écoles directement l'argent après ça et chacune s'organisera avec l'achat des ordinateurs, l'achat du mobilier, la gestion de la paye, la comptabilité. Alors, il y a des avenues simplistes là, qui sont proposées par la droite au Québec, représentées notamment par la Coalition Avenir Québec. Il faut se méfier de ces avenues-là parce que, veut, veut pas, si les écoles sont privatiser, si on veut, ou retrouve une autonomie pleine et entière, ben ça va prendre quand même une organisation au-dessus pour offrir certains services, comptabilité.
En conclusion, 10 secondes. Charles, Éric, en conclusion, 10 secondes, vas-y, Éric.
Ben, moi, je dis qu'on devrait s'inspirer du modèle de la Fédération des établissements d'enseignement scolaire du Québec, qui, eux, justement, ont beaucoup plus d'écoles à leurs actifs qu'une commission scolaire et ils gèrent à moindre coût. Ils sont efficaces, ils rendent des services aux écoles et à ce moment-là, les écoles ont le maximum financièrement et il renvoie une redevance à cette fédération-là. Okay. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de ce modèle-là.
Charles, 10 secondes.
Oui, donc je suis d'accord qu'on a intérêt à améliorer ce qu'on a, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain, sinon on va se retrouver dans un fouillis et une guerre qui va durer des années entre les syndicats les gouvernements. Donc, il faut trouver une solution efficace pour améliorer les services sans que ça soit au détriment de nos enfants.
Bien, merci à vous deux. Il nous reste peu de temps, donc merci Charles Mongeon. Merci Éric Lancier pour ce premier débat. C'est à suivre pour la semaine prochaine. On se retrouve. Merci à vous deux.
Merci à toi.